grands entretiens. Aujourd'hui, avec Marie-Josée Monza. Marie-Josée Monza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour le second de cette série de grands entretiens. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre du centre Marcel Mauss à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, et votre domaine de recherche porte essentiellement sur l'image. Vous êtes en effet l'auteur de nombreux textes et publications sur ce sujet. On en rappellera quelques-uns en fin d'émission. Vous êtes actuellement à Marseille pour participer au cycle de conférences proposé par Alphabetville, Zinc ECM et le système Friche Théâtre, un cycle qui est intitulé « Esthétique et société ». Et vous n'êtes pas une inconnue sur cette antenne de Grenouille, puisque je rappelle qu'il y a presque un an, jour pour jour, vous étiez venu participer à un débat public autour des services publics et du bien commun. C'était dans le cadre de la résidence du compositeur Nicolas Frise et de son exploration musicale et radiophonique intitulée « Maintenant ». Mais aujourd'hui, c'est votre domaine de prédilection que nous allons explorer, l'image. Alors nous allons, si vous le voulez bien, l'aborder en trois thèmes. Tout d'abord, de la nature des images, et puis ensuite, le pouvoir des images et les images du pouvoir. Et enfin, s'il nous reste un petit peu de temps, nous nous intéresserons aux nouvelles images issues des technologies numériques. De la nature des images, donc, si vous voulez bien, pour commencer. Alors ce terme d'image, il nous vient du latin, imago. Mais il révèle des réalités complexes et imbriquées, on parle ainsi d'icônes, d'idoles, d'apparitions, des formes différentes qui relèvent du visible autant que de l'invisible. Et ces deux aspects d'ailleurs, visible et invisible, semblent parfois en concurrence. Ainsi, aujourd'hui, il semble que dans le déluge d'images dont on nous bombarde, qui nous atteignent quotidiennement, nous souffrions d'un excès de visible. Ou plutôt, il faudrait peut-être l'exprimer de la manière suivante, nous manquons d'invisible.
Bonjour, merci aussi de m'avoir invité et de m'obliger à repenser, à reformuler les aspects de ma pensée sur l'image qui sont assez complexes et vous les avez tout à fait bien situés. Vous avez dit que l'image venait du latin imago, c'est vrai. Et imago en latin désigne des objets qui étaient liés au départ à l'art funéraire, donc au masque mortuaire et au maintien dans le visible des traces ou du visage laissé par les morts, à leur ressemblance. Il y a dans imago deux lettres qui ont à voir avec imitatio. Et donc l'image, en tant qu'imago, est liée à une imitation de quelque chose. De quelque chose à travers cet art funéraire qui n'est plus là. Donc effectivement, on sent bien à travers l'art funéraire que l'imago renvoie dans le visible à quelque chose qui n'est plus là, qui est donc invisible. Mais ça ne suffirait pas parce que toutes les images ne sont pas des images relevant de l'art funéraire. Et il est beaucoup plus intéressant d'avoir recours au terme grec qui a été eikon, qui a été traduit après par image et chez les chrétiens orthodoxes par icône, mais qui a été utilisé déjà dans la philosophie grecque, eikon, et ne désigne pas un objet, mais parce que ça n'est pas un substantif, mais un verbe, quelque chose, mais désigne un mode d'apparition de ce qui n'est pas là, dans le champ du visible. C'est pourquoi le mot « eikon » est plus exactement traduit par « semblance » ou « semblant » que par « image ». Parce que « eikon » n'est pas nécessairement un objet. Par exemple, chez Platon, l'eikon peut être doué d'invisibilité. Dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, dans les monothéismes, où la transcendance ne se montre pas et semble interdire d'ailleurs la production des images, je dirais que eikon reste invisible. Donc il y a une pensée de l'invisible. Il appartient au monde chrétien dont nous sommes héritiers dans la culture occidentale, y compris dans les sociétés qui ne sont pas forcément christianisées, mais qui héritent de cette culture-là, de relever d'une pensée monothéiste qui est la seule, le seul cas monothéiste où l'image en tant qu'objet renvoie à l'invisible, c'est-à-dire où le mot icône désigne en même temps l'apparition dans le champ du visible de ce qui n'est pas là, mais qui n'est pas nécessairement le mort, puisque la doctrine de l'incarnation, du fait de la résurrection, dans la doctrine chrétienne, nous indique que ce qui apparaît dans le visible et qui n'est plus là, relève peut-être de la vie et non pas de la mort. C'est-à-dire que l'icône reçue des chrétiens ne fait pas partie d'un art funéraire. Le visage du Christ n'était pas, sur les icônes, un art funéraire. Au contraire, il célébrait la résurrection. Donc, qu'ont pensé les pères de l'Église et dont nous héritons ? C'est que peut-être l'image, ou le registre de l'image, est un registre médiateur, intermédiaire, entre ce qui est là et ce qui n'est pas là, entre le visible et l'invisible. C'est ce qu'ils ont appelé un opérateur de la relation, un relatif. Et donc, l'image dans cette pensée-là est le mode sur lequel l'invisible se donne à voir dans le visible. Cette complexité qui fait de l'image un objet pour la vision et une quête pour le regard, fait de cet étrange objet à la fois un objet et un non-objet. Dans la pensée chrétienne, cet objet non-objet qui s'appelle icône se soutient dans son rapport à l'invisible de la croisée du regard entre le créateur et la créature, entre la transcendance invisible et la créature visible, qui, passant par l'image, permet à la fois de voir ce qui n'est pas là, mais en même temps permet également au créateur de regarder sa créature. C'est-à-dire qu'il y a une véritable circulation des regards à travers l'icône. En quoi ceci nous intéresse ? C'est qu'effectivement, pour la première fois, l'image, au lieu d'être désignée uniquement comme reproduction matérielle de ce qui n'est pas là, et qui était un art funéraire, et au lieu d'être présence matérielle d'une puissance qui vient l'habiter, et qu'ils ont appelé une idole, une idole étant le mode sur lequel l'invisible vient se loger dans le visible. Ce qui est intéressant dans la doctrine des Pères de l'Église, c'est qu'ils disent bien que l'icône ne contient pas la divinité. C'est-à-dire, le Dieu n'est pas venu se loger dans l'objet.
C'est la différence entre l'icône et l'idole, et idolon en grec, que l'on traduit aussi parfois comme image.
Voilà, exactement. L'idolon, c'est quand le principe invisible vient faire sa demeure dans le visible. Donc les objets sont habités, ils deviennent magiques, ils deviennent talismaniques, ils deviennent idolâtrés, ils deviennent idoles. Or, ce que veut l'icône, ou la pensée iconique, je ne m'occupe pas des objets dits icônes et qui sont dans les églises, qui peuvent tout à fait fonctionner comme des idoles. Mais la pensée de l'icône est une pensée, justement, de vestige d'une présence dans le visible et l'absence. C'est-à-dire, le Dieu n'est pas dans l'icône, l'invisible n'est pas dans l'icône. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'icône ? Qu'est-ce que c'est qu'une image ? C'est un rendez-vous pour des regards. C'est une traversée pour des regards. Donc, il y a un désir de voir chez celui qui regarde l'icône et un désir d'être vu, toujours chez ce même sujet. Et c'est de cette circulation du désir de voir et du désir d'être vu qui fait de cette pensée de l'icône peut-être le fondement de quelque chose qui a à voir avec la constitution de l'humanité elle-même. À savoir que comment un sujet se constitue dans le monde en tant que sujet, sinon lorsqu'il est nommé et qu'il rencontre son image, par exemple dans un miroir, dans un reflet, dans un miroir, et qu'est-ce qui lui permet de reconnaître dans ce miroir son image, de dire ce que je vois dans le miroir, c'est moi. Ben, c'est nécessairement à la fois de l'ordre de la reconnaissance d'une ressemblance, mais en même temps du constat d'un écart entre mon image et celui qui dit c'est moi.
Est-ce que donc je suis le seul animal sur cette terre à croire que l'image de moi, c'est moi ? Ou est-ce que plutôt il ne faudrait pas, dans cette réflexion sur le reflet, faire intervenir le regard de l'autre, la nécessité voilà. du regard et du dialogue avec
l'autre ? La découverte de l'image dans le miroir est une découverte qui est, conformément, si vous voulez, au principe qui habite l'image elle-même, qui est de mettre en relation le visible et l'invisible. Ce qui est visible dans le miroir, c'est pas moi, c'est mon image. Donc l'image est en même temps un opérateur de séparation, un opérateur d'écart. Et effectivement, comme la psychanalyse, par exemple, s'en est saisie à travers la question de la jouissance spéculaire, de la jubilation spéculaire de l'enfant face au miroir, c'est le regard tiers et la parole du tiers qui soutient la non-identification de mon image à moi-même. C'est-à-dire que je sais à quoi je ressemble, l'image me ressemble, je ressemble peut-être à mon image, mais mon image et moi sommes deux. Nous avons droit au même nom, mais je n'habite pas le miroir.
C'est ce que Jacques Lacan développait dans ce qu'il appelait le stade du miroir.
Le stade du miroir, qui est un stade constitutif de quoi, dit-il ? De la possibilité pour l'enfant d'accéder aux opérations symboliques, c'est-à-dire de parler. Autrement dit, la séparation d'avec notre image fait qu'un sujet sait qu'il est divisé, en tant que sujet de la parole, en tant qu'émetteur de signes, et que ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui et ça n'est pas lui. Il est absent du miroir, on est absent de son image. Et pourtant cette image lui ressemble dans la mesure où il voit dans le miroir comment l'autre le voit. Et que voyant l'image de l'autre dans le miroir tel qu'il le voit, c'est dans cet entrecroisement des regards que se constitue une relation d'altérité et d'écart, c'est-à-dire de reconnaissance intersubjective, de deux sites subjectifs, qui se tiennent l'un à l'égard de l'autre comme émetteurs de signes et de signaux, qui sont ceux émis par la parole, mais qui sont ceux aussi que leur présence, la présence de leur corps dans la lumière, émet pour le regard de l'autre. Donc quelque chose se constitue dans la circulation et la croisée de ces signes, sans qu'il y ait identification substantielle à ce que l'on voit. Donc vous voyez que l'image met en relation quelque chose qui a besoin à la fois de visibilité et d'invisibilité. C'est-à-dire, je ne suis pas en tant que sujet présent visiblement dans le miroir. Cette opération de l'absence, cet opérateur de l'absence, cet opérateur de la séparation qui est constitutif d'un site subjectif, mais qui n'est un site subjectif que dans la mesure où il existe pour le regard d'un tiers.
Cette distance entre le visible et l'invisible, elle prend aussi parfois la forme et la nature d'un rapport de force. Je vous cite, vous avez écrit dans Le commerce des regards, publié au Seuil, « L'image est menacée par l'empire des visibilités ». Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu ce que vous vouliez dire ?
Ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que l'intérêt porté à l'image depuis... moi, je travaille sur l'image depuis 30 ans. Mais l'intérêt porté par tout le monde à l'image, je dirais, il a plutôt entre 15 et 20 ans. Et que j'ai vu croître et se déployer une sorte de passion pour la question de l'image dans le milieu philosophique, sociologique, anthropologique, passion croissante. Et le constat inquiet, comme un état d'alerte, c'est... Étant donné le développement audiovisuel, publicitaire et de l'image devenue le mode majeur de la communication audiovisuelle, mais en fait visuelle, tout cet intérêt croissant pour l'image s'est accompagné autant d'enthousiasme producteur et de fascination jouissante, que d'un état d'alarme et de saturation dans lequel on a l'impression que les sites subjectifs, que chacun de nous est presque dans un état de saturation, de débordement. Vous avez vous-même utilisé, je crois, le mot bombardement d'images. Donc, c'est un mot très agressif, comme si les images nous livraient la guerre, détruisaient quelque chose. Donc, je me suis intéressée à ce devenir des productions visibles qui, au lieu d'être constituantes, comme tout ce que j'ai dit précédemment, le laissait prévoir, hein, constitution du sujet, constitution de la séparation, constitution des opérations symboliques, tout d'un coup, une sorte de flux ininterrompu de visibilité devenait le lieu d'un aveuglement et d'une saturation et nous conduisait finalement à retrouver, pour les décrire, à peu près ce que les générations séculaires de contempteurs des idoles employaient comme vocabulaire. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en train de penser que les images nous habitent et que nous habitons les images et qu'il y a une sorte de consubstantialité du monde des images à la réalité sans séparation ? D'où l'intérêt que j'ai porté au mode de production et de visibilité de ce qu'on nous donne à voir, publicité, télévision, film, etc. Et de m'apercevoir qu'au fond, cette surabondance d'images d'industrie iconique, j'étais en train de constater et qu'elle m'a mené à inventer un mot, à savoir l'iconocratie. Hein, ce qui est en fait un peu contradictoire dans les termes, dans la mesure où l'icône est en semblance, et la cratie, il tente un pouvoir, quelque chose qui, dans le réel, vient nous dominer, devenir une domination. C'est-à-dire, comment l'image, d'avoir été un opérateur de liaison et de séparation, était devenue un opérateur de la consommation et de la consomption.
On va en reparler dans quelques instants à propos des images du pouvoir et du pouvoir de l'image. Mais juste pour conclure sur cette question du visible et de l'invisible, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce besoin d'invisible, il comporte une certaine forme de nostalgie ? Je pense à ces cartes anciennes, après tout les cartes ce sont des images du monde, qui comportaient encore des terrains incognita, des endroits vierges sur lesquels on pouvait projeter de l'imaginaire justement. Est-ce que ça n'est pas de ça dont nous sommes aussi un petit peu nostalgique aujourd'hui?
La question de l'invisible est tout sauf nostalgique. Elle est structurale. C'est du même ordre que de savoir si, quand on fait des images, une photographie ou quand on fait un film, la question du cadre. Qu'est-ce que nous montre celui qui nous donne à voir? Est-ce qu'il nous montre tout ou est-ce que le cadre est fait pour construire du hors-champ? Est-ce que le mode sur lequel le visible se donne est un mode de mise en présence de la totalité du réel ou au contraire un mode sur lequel du hors-champ se constitue, à savoir une croisée des regards sur ce qui n'est pas dans l'image? Quand nous avons produit, avec Jean Toussaint de Santi, après la mort de Jean Toussaint de Santi, mais à partir d'un texte de lui, l'objet qui s'appelle, le livre qui s'appelle « Voir ensemble », tout était centré sur la question de l'invisible. Non pas sur un mode nostalgique, mais sur le mode, sur la question du sens. Qu'est-ce que nous pouvons partager dans le visible? Est-ce que nous voyons, dire « nous voyons » a un sens? Et ce qu'avait dit ce jour-là Jean Toussaint de Santi, qui était à la fois brutal et incisif et opérant, nous ne voyons rien. C'est-à-dire que chacun voit quelque chose, mais à quel titre pouvons-nous dire que nous voyons ? Eh bien, nous ne pouvons dire que nous voyons que parce que nous parlons de ce que nous voyons. Et par conséquent, ce que nous partageons, c'est ce que nous sommes en mesure de dire et de nommer de ce que nous voyons. Or, cette parole n'est pas dans le champ du visible. Le hors-champ de l'image, c'est la puissance de parole du sujet parlant. C'est en tant que sujet parlant que les images produisent du hors-champ. Quand Jean-Louis Comolli, qui tourne énormément à Marseille, il est d'ailleurs en ce moment à Marseille, parle de sa façon de filmer, il me disait cette chose admirable, « Quand je filme, je ne pense pas à ce que je vais montrer, je décide de ce que je ne vais pas montrer. » Et que la façon dont je vais cadrer est déterminée par ce que je ne veux pas montrer. Parce que ce que je ne veux pas montrer, c'est ce que je veux faire comprendre. Et donc que ce que je vais montrer, c'est ce qui renvoie à ce qui n'est pas montré et que le spectateur va construire comme lieu de la compréhension dans le champ du visible. Donc le lieu du partage n'est pas dans l'image, mais l'image est l'opérateur qui met en œuvre ce cadrage, ce morceau de visibilité, ce petit champ, c'est le champ, ce qui est dans le champ du visible, construit le hors-champ du sens.
Donc la première qualité d'une image, au fond, c'est d'être provocante, c'est d'en appeler à la parole, à une parole partagée.
C'est cela.
C'est là où l'icône rejoint le logos.
Voilà. J'appelle image ce qui donne la parole et j'appelle visibilité ce qui prend la parole, c'est-à-dire qui nous l'enlève. Et c'est en ce sens que toute la critique que je peux faire des industries audiovisuelles qui prennent la parole, c'est qu'elles saturent leur visibilité de messages communicants, que je dois y comprendre et y entendre ce qu'elles disent et ce qu'elles montrent, et qu'elles sont des images sans hors-champ. La télévision, très souvent, les programmes télévisuels, n'ont pas de hors-champ. On nous montre ce que nous devons savoir, et nous sommes convaincus de tout savoir sur ce qu'on nous montre.
Nous allons maintenant, et c'est une transition bien sûr toute faite, aborder le domaine du pouvoir de l'image. Peut-être d'abord par le biais des pouvoirs de l'image, des pouvoirs de l'image en effet, et non pas simplement le pouvoir de l'image. Des pouvoirs qui sont tantôt positifs ou négatifs, c'est selon. Ainsi, l'image peut avoir le pouvoir de faire voir, c'est-à-dire de révéler, ou le pouvoir de faire croire, qu'on pourrait traduire par abuser, le pouvoir de faire savoir, le savoir c'est libérateur en général, ou bien le pouvoir de faire obéir, c'est-à-dire d'établir une contrainte, une astreinte. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu quelques instants, si vous voulez bien, sur ces deux binômes que sont d'un côté le pouvoir de faire voir ou de faire croire, et de l'autre le pouvoir de faire savoir ou de faire obéir. Peut-être pour commencer, faire voir, faire croire.
Si le désir de faire voir existe, c'est parce que le désir de voir est constitutif. Je l'ai indiqué tout à l'heure en disant que le désir de reconnaissance est constitutif des sites intersubjectifs. Et donc, faire voir, c'est l'occasion de mettre en œuvre le champ croisé d'une reconnaissance dans l'altérité. Vous avez dit faire croire, c'est-à-dire abuser. Là, je vous arrête. Faire croire, ça peut être abuser, c'est-à-dire sachant que le mot croire peut être à l'origine de quelque chose que nous appelons la crédulité. Et abuser de la crédulité, c'est prendre le pouvoir sur la conviction, et éventuellement l'obéissance et la soumission de quelqu'un, en usant d'un pouvoir et en abusant d'un pouvoir qui est celui de la crédulité, dans une relation de pouvoir qui est de domination. Tu vas me croire parce que je suis plus grand et je sais plus, je suis plus fort et tu as peur. Donc, dans une domination, inégale, l'enfant va croire ce que le grand va dire parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il est adulte, parce qu'il sait, parce que lui est faible, etc. Mais croire est peut-être aussi un mode qui invoque un autre régime, celui de la confiance, celui de la parole donnée. Si je dis « tu me dis cela et je te crois », ça veut dire « je pense que tu n'abuses pas de ma confiance ». Mais tu me donnes à savoir quelque chose que je ne vais pas immédiatement contrôler, mais tu es digne de foi. Une première chose, donc, moi je dis que l'image n'opère que sur le seul registre de la croyance. C'est-à-dire que quand une image nous donne à savoir, elle est une information, mettons, hein, elle nous demande toujours d'y croire. Elle ne peut se constituer comme savoir qu'en échappant au seul registre de l'image et en amenant les preuves que ce qui est montré est réel. La façon de montrer des images, donc la façon, par exemple, de placer sa caméra quand on est photojournaliste, est déterminante. C'est-à-dire, quand Hitchcock a décidé, lorsqu'on on a fait appel à lui pour filmer les camps de concentration et de filmer Auschwitz, il a non pas réduit le cadre, il a décidé de prendre de plus loin possible de façon à ce que qu'on voit tout ce qui était et qui n'était pas ce qu'il filmait, de façon à ce que quelque chose de la largeur du champ permette de jouer, d'être un opérateur de réalité, alors qu'en cadrant de trop près et en étant au plus près de la chose qu'il voulait montrer, il ne respectait pas la distance à laquelle le spectateur pouvait lui faire confiance. Donc il y a dans les protocoles de production du visible, pour celui qui doit croire à ce qu'on lui montre, des modes d'installation, de cadrage et de composition et du champ et du hors-champ qui mettent en jeu la question de la confiance. Mais l'image ne peut pas faire autre chose que faire croire. Pourquoi Lanzmann dans Shoah, justement, n'a pas voulu utiliser la brutalité des images, des charniers, etc., mais s'en est remis à la présence et à la parole, parfois sincère, parfois gênée, parfois mensongère, de ceux qui ont été les témoins, c'est pour justement mettre en œuvre cette question de la confiance que le spectateur peut faire à celui qui lui fait voir. Donc, je crois Lanzmann, parce qu'il a mis en place un dispositif où je sens bien que quelque chose d'une parole donnée me donne à mon tour la parole, c'est-à-dire s'adresse à moi, non pas en tant que sujet qui veut seulement voir, mais en tant que sujet qui veut aussi penser, en tant que sujet parlant, en tant que sujet de la pensée. Non pas sujet qui va immédiatement bavarder, hein. Être un sujet de la parole ne veut pas dire que quand on voit une image, il faut que ça parle, il faut qu'on parle. Mais une image se reconnaît à ce qu'elle s'adresse à un sujet capable de penser.
Peut-être une toute petite différence entre cette croyance et cette confiance, c'est que la croyance, parfois, c'est en quelque chose d'immanent, alors que la confiance, c'est quand même quelque chose qui est profondément humain, non ?
La confiance, c'est la relation entre hommes. C'est la relation entre les sujets. Alors, à partir de ces prémices que je viens d'indiquer, à savoir que le régime de la croyance n'est pas seulement celui de l'abus, mais celui de la confiance, à ce moment-là, c'est une autre façon d'aborder les images dont je me défie, en disant quelles sont les images qui s'adressent à moi et qui me permettent d'être reconnue en tant que sujet de la pensée, sujet de la parole et sujet d'une réflexion, donc site de jugement, dans des relations d'ailleurs qui peuvent être contradictoires, même conflictuelles. Hein, voir ensemble quelque chose et en parler, parce que les choses que nous voyons sont incertaines, elles sont fragiles, ce ne sont que des images. J'ai même poussé le paradoxe, si on peut dire, jusqu'à dire l'image, ça n'est rien du tout. Elle devient image que dans la dynamique de cette croisée des pensées et des paroles qu'elle met en circulation. Mais quand une image a la prétention de nous montrer le réel, et non pas quelque chose qui nous fait penser, et de nous dire que la totalité de ce qu'il y a à voir et à comprendre est dans le champ, que puis-je dire ? À ce moment-là, même si on me montre de la réalité, je suis dans l'abus. On abuse de la crédulité de celui à qui on montre des choses réelles, c'est pas forcément mensonger, à partir du moment où on lui enlève sa qualité de sujet pensant. Donc, ce que j'appelle la violence d'une image, c'est pas tant qu'elle nous montre des choses violentes, c'est qu'elle nous fasse violence en nous privant de notre capacité et de notre dignité de sujet parlant.
Deuxième binôme que je vous propose maintenant de commenter, c'est celui qui oppose d'un côté faire savoir, c'est-à-dire opérer ce savoir libérateur, ou bien faire obéir, c'est-à-dire provoquer via l'image une contrainte, une astreinte. J'étais assez surpris hier à l'occasion de votre conférence, lorsque vous avez dit tout de go, l'image ne fait rien savoir du tout.
L'image ne fait rien savoir du tout, l'image fait penser. Vous comprenez que ce que montre l'image, c'est un état du monde pris dans le regard d'un sujet. Même si ce sujet a utilisé des instruments très sophistiqués en disant que cette ponction qu'on appelle des images indicielles, les choses sont bien celles que je vous montre puisque j'y étais, elles ont impressionné la pellicule. Enfin, en plus maintenant, avec la digitalisation des images, on n'est même pas dans l'impression, on est dans une ponction numérisée de pixels. Donc les modes d'apparition du monde nous donnent simplement à voir et nous donnent à penser. Il ne se construit un savoir commun sur les états du monde qu'à partir du moment où la parole s'empare de ce qui apparaît pour en analyser à la fois la logique, la problématique, la critique et le potentiel de décision concernant la place que je peux avoir face à ces réalités. Et on ne devient pas savant pour avoir vu. On ne devient savant à supposer que cette situation soit vraiment humaine. Il y en a qui sont plus ignorants que d'autres, disons. Mais on ne devient savant que si l'on constitue son savoir avec de la parole. Le savoir, c'est la philosophie l'a saisi immédiatement. Que la position de savoir, c'est une position de pouvoir qui se prend par la parole.
Mais pourtant, certaines images, et je pense notamment à des images d'information, ont été des images libératrices. Il y en a une qui me vient à l'esprit, oui. Là, maintenant. C'est cette image d'une petite fille passée au napalm qui court sur une route du Vietnam, une photo qui a dû être prise à la fin des années 60 et qui a été déterminante pour qu'on prenne conscience, pour que l'on sache. C'est un savoir, à ce moment-là, ce qu'était la réalité de la guerre, alors que les images officielles ne montraient que des uniformes, que des drapeaux et que du patriotisme. Et là, on a vu ce qu'était la réalité de la guerre, c'est-à-dire de l'injustice et de la souffrance.
Vous ne pouvez saisir le drame qui habite cette admirable image si elle est légendée. C'est quelque chose dont on a énormément parlé dans cette manifestation à laquelle je participe depuis peu de temps, qui s'appelle Visa pour l'image, qui a lieu à Perpignan chaque année, et où nous discutons, et où je discute avec les photojournalistes et les critiques, en reconnaissant que les images qui nous font savoir un état du monde sont des images légendées, toujours, avec le nom de la personne qui l'a prise, la date à laquelle elle a été prise, ce qui se passe dans l'image, c'est-à-dire il faut légender. Si vous utilisez l'image muette comme on donne un coup de poing, l'image opère de façon ce que j'appelle balistique. C'est-à-dire, non seulement elle vous dit quelque chose sur la guerre, mais elle déclare la guerre à votre pensée en même temps. En jouant uniquement sur cette balistique de l'image, qui est que l'image étant effectivement un objet de croyance qui joue sur nos affects et sur notre potentiel émotionnel, nous sommes tout d'un coup dans l'effroi, scandaleux, terrifié, paralysé, qui ne fait appel, si vous voulez, qu'à notre indignation, à notre stupéfaction, ou à nos larmes, ou à nos cris, et ne nous donnant pas la parole, ne nous permet pas de nous situer à distance de cette image pour nous dire, donc, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que cette image nous dise, nous instruise de ce qui est en train d'arriver à l'humanité et dont nous ne voulons pas être ni complices, ni ignorants, mais nous voulons aussi reconnaître que nous en sommes les acteurs. Là aussi, vous voyez ce que fait Lanzmann. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous fait pas simplement savoir les choses. Il nous responsabilise. Donc, pour nous responsabiliser, c'est-à-dire, nous sommes obligés de reconnaître devant cette petite fille le napalm, la guerre, de dire l'humanité est responsable et donc je fais partie d'une humanité responsable de ce qui se passe et je dois me demander là où je suis, que puis-je faire pour manifester plus que mon chagrin ou mon indignation, mais utiliser les moyens qui me sont donnés à moi d'en parler et de produire des gestes de réponse et de résistance.
Après le pouvoir des images, je vous propose qu'on aborde maintenant les images du pouvoir. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de la télévision. Nous sommes effectivement bombardés d'images. Décidément, dans notre conversation, les termes guerriers reviennent de manière constante. Est-ce qu'à ce propos, on peut parler d'excès de pouvoir? Est-ce que l'accaparement des images par le complexe politique, médiatique, économique, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir avec un grand P, comme autrefois on disait le prince, est-ce que cet accaparement des images par le pouvoir, au fond, ne vide pas les images de leur pouvoir?
Je formule, étant donné que j'ai fait la différence maintenant, j'espère clairement, entre l'opération imageante en tant qu'elle est constituante d'humanité et d'altérité, et les visibilités en tant qu'elles peuvent être une industrie de désubjectivation et de réduction du sujet au silence, donc de perte de l'autre, de perte de la reconnaissance, dans des industries où l'image, au lieu d'être un non-objet fragile entre nous, devient un objet de consommation, parce que la loi du marché fait que les images sont devenues une industrie, et il y a une industrie des images qui vend les objets de l'industrie, c'est-à-dire que l'image est devenue un objet qui vend des objets. Et donc le marché des images a fait que l'on parle aussi de guerre des images. Quand il y a eu le 11 septembre, on a vu dans la presse arriver des formules comme guerre des images, les images de la guerre et la guerre des images. Al Jazeera produisait ses images, CNN produisait ses images. Et chacun envoyait des images à l'autre. Il y avait un échange, un bombardement. Et on osait dire qu'il y avait une lutte entre les cultures, alors qu'on était dans une lutte entre des barbares. Deux barbaries s'affrontaient, un effondrement de la culture. Autant l'image et créatrice de culture, autant les visibilités, lorsqu'elles deviennent dans une balistique du bombardement entre des puissances, signent l'effondrement de la culture, l'effondrement des opérations symboliques, finalement l'effondrement du politique, sous deux formes. L'une qui est la guerre, et l'autre qui est la réduction de tous les échanges à l'échange économique. Donc, à l'échange marchand. La mercantilisation de l'image devenue objet, qui fait de nous des objets également, et non plus des sujets. Donc, cette réification de l'image devenue objet, cette réification des sujets qui font partie de ce champ balistique, vous dites on est bombardé, mais nous aussi, on se met à chaque fois que une catégorie sociale est fragile, elle se met à produire des images violentes. Hein, regardez ce qui se passait dans les banlieues. Devenir producteur de gestes violents, dont le but est qu'il soit spectaculaire, étant spectaculaire qu'il soit vu à la télévision, étant vu à la télévision qu'il soit filmé par des téléphones portables, étant filmé par des téléphones portables diffusés d'un sujet à un autre, on sent là une sorte de folie dans la visibilité qui témoigne, je dirais, d'une grande pathologie dans l'effondrement de notre image. L'image ne nous constituant plus, nous attendons des industries des technologies et des industries de la visibilité et de leur marché, des opérations de reconnaissance violentes où se faire voir devient le simulacre de la reconnaissance. Hein ? Star Academy, le loft, le casting, qui fait appel à toutes ces populations que tout le monde voudrait effacer parce qu'elles sont gênantes. Elles sont pauvres, elles ne parlent pas français, ils sont sans papier, qu'importe. Hein. Plein de situations de fragilité dues à l'émigration, dues à la paupérisation, dues les SDF, enfin tout ce monde de misère que nous voudrions effacer et qui a besoin d'accéder à la visibilité. Et donc, distorsion de l'opération imageante qui, au lieu d'être constituante, est ressaisie par les industries, ce que j'appelle une destitution du sujet, entraîne et collabore à cette disparition du politique. Donc, les images du pouvoir, ou ceux qui ont le pouvoir et qui utilisent les images pour exercer ce pouvoir, nous font croire que nous sommes, je dirais, sous le règne de l'image. Or, la phrase à laquelle je tiens le plus est la suivante : l'image, si elle existe, n'est pas un règne. La liberté, si elle existe, n'est pas un règne. La démocratie, si elle doit exister, n'est pas un règne. Elle est l'image, la liberté comme la démocratie sont le mode sur lequel se laisse désigner, je dirais, le régime du partage et de l'égalité. On ne règne pas avec une image, on renonce à régner. À partir du moment où vous utilisez le visible pour prendre le pouvoir, effectivement, là on est dans une... Alors, vous parliez de Stigler qui parle de télécratie, à supposer que la télévision soit le seul mode cratique de la souveraineté ou de la domination. Moi, je dis iconocratie, après tout, c'est peut-être pas mieux. C'est de dire, ou d'une vidéocratie, c'est que les visibilités sont devenues des modes de domination qui veulent s'emparer, se saisir du désir de voir, oubliant que le désir de voir ne peut vivre que de ne jamais trouver un objet pour se satisfaire. Si je désire que tu me vois, c'est pas pour que tu t'empares de moi. Si je désire te voir, c'est pas pour faire de toi ma chose. Ça, c'est un régime passionnel de dévoration, de capture et de domination. Le désir de voir et le désir d'être vu ne devrait jamais se satisfaire de se saisir de son objet comme d'une chose que l'on peut posséder. Le désir de voir ne s'alimente que de la dépossession de son objet. Donc j'appelle image le régime de dépossession du sujet quant à l'objet de son désir lorsqu'il veut voir. Et l'art, les artistes, qui sont ceux qui nous montrent, dont nous attendons qu'ils nous montrent les meilleures choses à voir. Quelles sont ces meilleures choses ? Eh bien, ce sont les modes d'apparition de ce qui nous reconnaît, de ce qui ne se saisit pas de nous, mais de ce en quoi nous nous reconnaissons comme reconnus, comme sujet parlant, comme sujet d'un regard. Donc, vous voyez, l'image n'est pas un règne. Et le règne des visibilités est véritablement une dictature des corps et de la vision.
Mais pourtant, cet usage des images par les régnants, elle a été utilisée de tout temps, et bien avant d'ailleurs l'invention de la télévision. Donc effectivement, on peut penser que cette iconocratie, elle est préalable à la télécratie. Je pense par exemple à l'argent. La monnaie, qui est vraiment le pouvoir peut-être le plus absolu, eh bien, sur les monnaies figurait toujours la figure du roi ou du régnant. Hein, c'était une manière d'utiliser cette image comme symbole même de la puissance. Absolument. Sur cette chose qui était l'objet même de la puissance, c'est-à-dire
l'argent.
C'est
comme ça que l'Église a pris le pouvoir, en trahissant radicalement la pensée qu'il prête dans les évangiles à Jésus, puisque quand les pharisiens demandent à Jésus, est-ce que nous devons payer l'impôt à César, puisque en fait nous n'avons de dette qu'à l'égard de Dieu. La fable dit que le Christ, que Jésus a pris une pièce de monnaie et a dit « Mais qui voyez-vous sur cette pièce ?» Et on lui répond « Nous voyons l'image de César. » Et c'est là qu'il a dit « Rendez à César ce qui est à César. » Et quelques siècles plus tard, qu'est-ce qui est arrivé ? L'Église a pris le pouvoir avec les images et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis le visage du Christ sur la monnaie. Et donc, à qui il fallait payer la peau ? À l'Église. Donc, trahison absolue du message spirituel, de celui qui dit « Vous avez votre dette envers l'invisible n'a rien à voir avec votre dette au visible. » Mais quand l'Église met le visage de l'invisible sur la monnaie, elle fait de l'image la monnaie, l'impôt sur l'invisible.
C'est ce qu'on appelle peut-être du retour sur investissement.
Tout à fait.
Je vous propose qu'on aborde maintenant le troisième thème de notre conversation, et qui concerne les nouvelles images. Aujourd'hui, l'essentiel de la production d'images se fait sous forme numérique, pour en quelque sorte boucler la boucle avec ce que nous disions au début de notre conversation à propos du visible et de l'invisible. Il se trouve que l'image numérique, elle a ce caractère particulier de ne pas être visible immédiatement, puisqu'elle est un simple agencement de 0 et de 1, de bits, sur des supports qui ne rendent pas du tout cette image apparente, que ce soit un CD-ROM, que ce soit un disque dur d'ordinateur. Il faut un instrument particulier, d'ailleurs assez onéreux, pour faire apparaître l'image. Alors qu'est-ce que ce qu'on appelle souvent révolution numérique, qui n'est pas toujours très révolutionnaire d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle emporte selon vous comme conséquences sur la nature des images et sur leur devenir ?
Il y a plusieurs choses. Il y a le passage de l'analogique au numérique qui fait que vous pouvez numériser une image qui d'abord a été analogique, vous la traitez numériquement, ce qui fait que l'ensemble des signaux qui avaient été captés, saisis analogiquement, peuvent être transformés en pixels, mais il n'y a pas pour autant disparition de la source. Il n'empêche que le mode sur lequel l'image vous arrive passe par des calculs, par un traitement numérique, qui a pour caractéristique d'être modifiable, transformable, qui est totalement dépendant du traitement qu'on va lui faire subir. C'est-à-dire que même si vous partez d'une image analogique de type indiciel, vous pouvez faire subir à un objet qui est digitalisé toutes les modifications, toutes les manipulations, donc entraîne un degré supplémentaire de non-fiabilité quant à l'origine de l'image. Mais de la même façon, ces images peuvent être créées d'emblée, dès le départ, à partir de banques de données, et être totalement, ne pas avoir de source analogique, et être totalement produite de façon numérique par des pixels et n'avoir aucun référent dans le réel. Ce qui ne fait que redoubler le caractère tout à fait irréel, que d'autres appelaient virtuel, de ce qui est vu. L'enthousiasme qu'a provoqué cette puissance de production de visibilité a donné lieu dans le monde scientifique, puisqu'on passait par des calculs très complexes, du côté de ceux qui travaillaient d'ailleurs sur les fractales, entre autres, tout ce qu'on a appelé une esthétique du chaos, qui n'avait rien de chaotique dans la mesure où elle était mathématiquement tout à fait lisible, même si ça représentait des milliers d'heures de lisibilité, le calcul était sous-jacent à ces images. Et il y a une sorte d'ivresse, je dirais, que j'ai appelée d'ailleurs moi-même, une sorte d'ivresse néo-pythagoricienne, à savoir qu'un monde visible pouvait sortir d'un cerveau purement calculateur. Et donc, il y avait une sorte de prolifération maintenant à l'infini des possibilités, et avec une sensibilité esthétique, souvent d'ailleurs fort décorative, et parfois nouvelle forme de papier peint. Mais on sentait une ivresse dans le possible. Puis ont été mises à la disposition des vrais créateurs d'images et non plus de savants peintres qui avaient le dimanche mathématicien, des caméras qui n'étaient plus, qui étaient donc des caméras numériques, des caméras qui sont de plus en plus petites en plus, puis maintenant ce sont les téléphones portables, c'est-à-dire que n'importe qui peut, avec un appareil photographique, un portable ou une caméra numérique, saisir dans le réel des données qui sont immédiatement traitées de façon numérique et qui permettent même d'avoir des bancs de montage sur l'ordinateur. Donc là, on a une transformation du rapport au réel qui donne un pouvoir tout à fait élargi et supplémentaire et élargi au capteur d'image, au spectateur capteur d'image. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'un côté les artistes et de l'autre les spectateurs. Vous avez dans le monde en général une foule, une multitude de personnes qui est en mesure de saisir des états du monde avec une grande facilité, avec de hautes qualités dans la définition de l'image, mais bon, qui sont ceux qui sont les artistes, c'est-à-dire ceux qui ne se contentent pas de stocker des millions d'informations sur les états du monde, pourquoi pas en temps réel, avoir un double du monde. Et alors, qu'est-ce qu'on va garder de tout ça? On va avoir des banques d'images qui vont se multiplier avec les appareils, avec les appareils de capture et avec les initiatives individuelles. Qu'allons-nous faire avec tout ça? C'est-à-dire, le problème devient quantitatif et qualitatif. Autrement dit, je pense que plus que jamais, la constitution subjective et critique des sujets parlants, comme je les appelle, et l'autorité de l'artiste, c'est-à-dire du créateur qui met en scène un choix d'image, de même qu'autrefois, le photographe qui arrivait avec sa planche contact disait « voilà, c'est cette photo que je vais donner à voir, et tant pis pour tout le reste », il y a un problème de choix qui fait que le problème aujourd'hui reste tout à fait entier. Mais évidemment, sur un stock d'images qui est innombrable, mais qui fait appel plus que jamais aux critères de choix, de sélection et de construction de l'image. Parce que si on nous balance d'un seul coup, comme on a fait semblant de le faire en disant « des militaires à Abu Ghraib » ont décidé, avec un petit appareil, de prendre les photos d'une dame enceinte militaire en train de fouetter d'humilier un soldat irakien, et qu'on balance ça dans les informations, qu'est-ce que ça veut dire, voyez? Effectivement, la capacité de prendre et de faire, de créer des relations de choses et d'objets, parce qu'on prend et qu'on ne donne pas, parce qu'on balance et qu'on ne choisit pas, parce qu'on frappe et qu'on ne s'adresse pas, fait que le numérique est à la fois une ressource considérable, mais elle réclame maintenant une véritable école du regard, une construction du regard. Il faut que l'éducation du regard soit prise en charge maintenant de façon décisive, le plus tôt possible, pour que toutes les jeunes générations qui vont se trouver pouvoir disposer de moyens considérables dans la capture du réel et la saisie de ce qui les entoure, soit alimentés par des ressources de paroles, de pensées et de critiques telles qu'ils soient capables de choisir et d'accepter de perdre, de dire bon ben ça je garde pas parce que c'est pas bien.
Souhaitons en effet que par rapport à l'image et pour les générations futures,
nous
soyons capables d'avoir de l'éducation bien sûr et de garder un esprit critique. Merci beaucoup à vous Marie-Josée Monzin d'avoir éclairé notre lanterne sur cette question des images dont nous n'avons évidemment pas fait le tour. Pour prolonger cette réflexion, peut-être quelques éléments bibliographiques. J'ai repéré bien sûr, écrit par vous, Le commerce des regards, c'est au Seuil, ainsi que un ouvrage collectif auquel vous avez participé, Voir ensemble, c'est chez Gallimard. Je crois aussi que vous vouliez nous recommander L'image peut-elle tuer ? C'est aussi un de vos écrits et c'est chez Bayard. Peut-être un site internet pour terminer que vous voudriez recommander pour qu'on puisse y trouver peut-être des images ?
Un site internet. Actuellement, quelqu'un essaye de construire un site à partir de mon travail, mais ce que je vous recommande, c'est un site d'images fait par un cinéaste qui est à la fois mon collaborateur dans le travail et qui s'appelle novi.org et qui est une capture des images de tout le monde. Il demande à tout le monde d'envoyer des images et il construit un film avec les images des autres.
L'appel est lancé. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Il s'appelle Hervé Nizic.
Merci.